Vous écoutez France Culture.
Projection privée. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alain Jaubert pour la parution chez Montparnasse Éditions et Arte d'un magnifique coffret contenant 18 palettes, si j'ose dire, en tout cas 18 disques et 50 de vos émissions sur la peinture, et les rapports avec justement le cinéma, puisque ça va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est de parler avec vous de comment, par l'image, pouvoir analyser les tableaux. C'est une série évidemment très connue, mais maintenant dorénavant accessible grâce à cette publication. Et puis vous êtes aussi, Alain Jaubert, romancier. À une voix près, vous avez failli avoir le prix Goncourt, mais il y a d'illustres précédents qui ont raté le prix Goncourt à une voix près. Bien sûr, il y en a même qui l'ont raté à plusieurs fois. Donc c'était Val Paradis chez Gallimard. Vous allez publier bientôt chez Folio, directement en poche, Lumière de l'image, sont également des analyses de tableaux, mais vous avez une grande expérience, et ça fait 20 ans que Palette a été créée. Donc ces tableaux, en une demi-heure, passés au crible de l'analyse. Comment ce projet est né ?
Avant même de vous répondre, je vais vous dire que je suis assez ému d'entendre en fait que la musique de votre générique, c'est une musique de mon oncle Maurice Jaubert, donc... compositeur de cinéma.
Je savais que c'était votre oncle, j'allais vous en parler.
Comment ça a commencé? C'était une idée comme ça qui m'est venue dans les années 80 quand je travaillais pour l'INA, et j'ai écrit un texte. C'était une période extraordinairement un peu dure, un peu figée, un peu formaliste, un peu structuraliste, et donc j'avais fait un texte en disant on va faire des films sur la peinture, il y aura une minute sur les pinceaux, une minute sur les palettes, une minute sur les couleurs, etc. Enfin, c'était très rigide. Et puis quelques années après, Thierry Garrel, qui était producteur à l'INA et qui est parti pour fabriquer en quelque sorte l'asset qui ensuite est devenu Arte, m'a appelé en me disant mais ton projet, on va essayer de faire un prototype. Et ça a démarré comme ça. J'ai fait un prototype en 87-88. Ce prototype a été montré à Michel Laclotte, qui dirigeait Le Grand Louvre à l'époque, et Dominique Paigny, qui était responsable du service audiovisuel. Plusieurs autres personnes s'y sont associées, comme Jean-Michel Arnold au CNRS audiovisuel, ou Pierre-André Boutan, qui dirigeait Océanique à l'époque. Et cette espèce de conjonction a fait que Le Louvre a commandé une salle de 6 films, Orsay a imité avec une salle de 6 autres films, le Centre Pompidou est entré, et d'un seul coup, cette série, dont je ne prévoyais absolument pas qu'elle dépasserait 4-5 numéros peut-être, est devenue complètement encyclopédique, couvrant toutes les époques de la peinture, et c'est devenu vraiment une petite entreprise, si j'ose dire, et qui a très très bien fonctionné pendant une quinzaine d'années.
Je relisais un texte d'André Bazin d'il y a maintenant 60 ans, c'était environ vers 1950 par là, 51, un texte très intéressant parce qu'il parlait justement des films sur l'art. Et il disait « Passer les prestiges de la surprise et de la découverte, les films de peinture vaudront ce que vaudront ceux qui les feront. » Alors, il aurait été, à mon avis, je ne vais pas faire parler André Bazin, mais je pense qu'il aurait été ravi de vos films, qui sont effectivement, qui d'un seul coup font vieillir énormément de films, y compris parmi les plus célèbres. Alors, vous avez certainement réfléchi au problème du film sur l'art. Il y a eu, à l'époque, quand Bazin écrivait, il y a eu des travaux pionniers de Luciano Emer, le grand cinéaste italien. Du néo-réalisme qui s'était spécialisé dans le film sur l'art. Et puis il y avait aussi des tentatives d'Alain René, par exemple, un Gauguin, un Van Gogh et Guernica, qui étaient en noir et blanc. Évidemment, aujourd'hui, vous avez la couleur. Comment vous voyez cette évolution du film d'art? Et je pense que d'une certaine façon, votre travail est lié, comme d'ailleurs souvent dans l'histoire du cinéma, de nouveaux moyens techniques permettent, comme d'ailleurs en peinture, l'impressionnisme, c'est l'invention du tube de couleur qu'on peut emmener avec soi dans la campagne et peindre devant le paysage. Vous, c'est tout de même de nouveaux moyens techniques qui permettent de filmer les tableaux.
Oui, c'était pas du tout évident au début, parce que moi j'étais... je suis un très très vieux cinéphile. J'ai commencé une carrière, disons, de cinéaste très tard. Pour moi, la vidéo, c'était vraiment la dernière roue du carrosse, et je ne jurais que par la pellicule. Mais au moment où je me suis trouvé, donc, et les premiers films documentaires que j'ai faits à l'INA étaient faits en 16 mm ou en 35, Et quand je me suis trouvé devant le problème de fabriquer ces objets que j'avais prévu de faire, je me suis rendu compte que c'était techniquement complètement impossible. C'est-à-dire que je ne pouvais pas à la fois faire des surimpressions, envoyer les tests au laboratoire, les reprendre. Enfin, il n'y avait pas les moyens de contrôler en permanence les trucages, les essais, tout ce qu'on pouvait faire. Évidemment, quand je travaillais à l'INA au début des années 80, j'ai vu fonctionner les premières régies vidéo, qui étaient des gros objets très lourds. Maintenant, ça tient dans un tout petit ordinateur portable. Et j'ai vu que, en fait, qu'est-ce que c'était qu'une régie ? C'était simplement un objet, une boîte dans laquelle on avait mis tous les instruments que les peintres, les géomètres, les graphistes, les architectes avaient inventés au cours des siècles. C'est-à-dire que vous mettez une image dans la régie vidéo, vous pouvez la décolorer, changer les couleurs, découper des personnages, les déplacer, faire tourner, pivoter l'image, la montrer en miroir, enfin... Des centaines de tous ceux qui ont vu Palette voient que tout ce qu'on peut faire avec les images, pas dans un but ludique comme le faisaient les gens qui commençaient à utiliser ces régies à l'époque, c'est-à-dire en faisant tourner Christine Ockrent à toute vitesse, qu'elle disparaissait dans l'Afrique ou des choses comme ça, mais dans un but analytique et, disons, pédagogique. Je me suis rendu compte que ça serait absolument impossible de faire autrement que de passer par ces outils-là. Alors, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai terminé, disons entre 88 et 2003, la technologie a énormément évolué aussi. Alors au début, je faisais par exemple tout passer par la photographie. Donc on faisait des séances fixes très complexes avec Claude Gaspari, donc un grand photographe de peinture. On prenait les photographies les plus grandes possibles, les plus grands formats possibles. Et ensuite, tout était retravaillé au banc-titre et ensuite à la palette graphique. Et en fin de compte, en régie vidéo. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On peut acheter ou prendre les images à distance par Internet. Tout peut se manipuler dans la même machine et qui peut être elle-même toute petite, un petit ordinateur portable. Je pourrais faire ça chez moi si je voulais, quoi. Ce que je ne fais pas parce que je ne veux pas tuer tous les métiers de l'image. Mais si vous voulez, donc entre le début et la fin, il y a eu évidemment une grande évolution technologique. Mais le principe est resté le même. C'est-à-dire le principe, c'est de pouvoir intervenir directement sur l'image et la découper, l'analyser, faire se superposer des couches d'images pour montrer ce qu'il y a en dessous, etc. etc.
Enfin. Alors, les techniques d'analyse de tableaux que vous reprenez évidemment à votre compte dans les films, par exemple l'infrarouge qui permet d'aller chercher le repentir du peintre qui a derrière son tableau esquissé un autre tableau qu'il a finalement abandonné, etc. Est-ce que ce n'est pas une forme de psychanalyse ? C'est-à-dire d'une façon, c'est le retour du refoulé ou le retour de choses qui étaient cachées et que vous êtes amené à faire apparaître pour le spectateur.
Oui, tout à fait. C'est terrible pour les peintres, d'ailleurs, de savoir ça. Parce que d'abord, bon, il y a les peintres, il y a des grands peintres qui ont très mal peint, je veux dire, au point de vue de la cuisine, la technique. Alors souvent, ça s'écaille, ça tombe, ça s'abîme, etc. Il y a d'autres peintres qui ont eu énormément de travail, beaucoup de repentir. Puis il y a d'autres peintres qui travaillent directement sur la toile. Il n'y a plus aucune trace d'intervention. Tout existe, en fait. Mais c'est vrai que tous ces instruments qui ont été mis au point... Alors ça a commencé, évidemment, avec les rayons X, puisque dès les années 30, quelqu'un a l'idée saugrenue. Enfin, les rayons X existent déjà depuis presque un demi-siècle. Enfin, pas tout à fait. Mais quelqu'un a l'idée saugrenue de prendre une toile, puis hop, de la mettre derrière un appareil, et puis de voir tout d'un coup que l'abbé de Sabé de Rembrandt, avant d'avoir cette position qu'on lui connaît, avait la tête de côté. Enfin, alors tout d'un coup, ça donne naissance à une nouvelle science, évidemment, qui est l'analyse des tableaux. Puis ensuite, on s'aperçoit que l'ultraviolet permet de voir certaines surfaces ont été retouchées ou restaurées à telle ou telle époque. L'infrarouge permet de lire le dessin sous-jacent, et ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes de technologies. Puis aujourd'hui, maintenant, des technologies extrêmement raffinées et sophistiquées qui s'appliquent pas seulement au tableau, d'ailleurs, qui permettent de voir qu'un marbre grec ou romain vient de telle ou telle carrière à tel endroit. On peut localiser, c'est un peu comme les bons vins qu'on peut localiser à un cep près. Là, on peut localiser le marbre de Carrare ou le marbre de Paros. Et donc, tous ces instruments d'analyse, évidemment, ça ne laisse plus aucun secret dans la fabrication du pain. Mais il y avait déjà du secret dans les tableaux. Par exemple, si on prend les tableaux de Vermeer, bon, il y a des gens un peu fous et un peu maniaques, mais dont le raisonnement est juste, qui ont mesuré exactement la taille de Vermeer d'après la hauteur de son œil, d'après la hauteur de ses lignes de fuite, etc. Donc, si vous voulez, il y a une trace toujours de la vie et du geste et de la main du peintre. dans le tableau. Georges Charpak a émis cette hypothèse un jour, mais je ne sais pas si elle pourra jamais être vérifiée, que le potier grec en train de tracer son trait sur le cratère, appelé à la soupe par sa femme, a un petit tremblement et qu'on pourrait retrouver dans ce tremblement le bruit, le son de la voix comme dans les gravures des 78 tours de jadis. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme raisonnement, mais c'est une fable ou un mythe ou une légende, enfin qui donne un peu, si vous voulez, la première couche d'analyse qu'on peut faire sur un tableau. Il y a la trace du corps du peintre dedans. Alors après, évidemment, tous les instruments scientifiques d'analyse permettent d'aller un peu plus profond dans cette analyse, de voir les repentirs, de voir le dessin préparatoire, de voir que, par exemple, David, dans les Sabines, a mis une première date selon le calendrier, le nouveau calendrier, puis ensuite a changé la date. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont quelquefois anecdotiques, qui nous permettent de voir un petit changement, une petite anecdote, et puis quelquefois, au contraire, très profonde et très, très importante et très grave, quoi. Alors ensuite, il y a évidemment l'histoire de l'image, l'histoire qui est racontée par l'image et l'histoire que comment le peintre a fait sa mise en scène. Et c'est là où la peinture et le cinéma se rapprochent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions qui se posent aux cinéastes d'aujourd'hui se sont posées aux peintres auparavant. C'est-à-dire d'où vient la lumière, qu'est-ce qu'on va cadrer, combien de personnages, comment raconter l'histoire. Alors évidemment, au cinéma, on a plus de latitude dans la dimension temporelle, alors que le peintre est obligé de condenser d'une façon extrêmement brutale des éléments de temps. Et il peut montrer seulement l'avant, le pendant ou l'après d'un drame ou d'une séquence. Mais quelquefois, il arrive à montrer les trois en même temps, et c'est très extraordinaire. Le pouvoir de condensation de la peinture nous ramène à la question que vous me posiez, c'est-à-dire l'inconscient, nous ramène au rêve, en fait. C'est-à-dire cette espèce de pouvoir de condensation d'éléments complètement hétérogènes, étrangers, dont jamais on ne pourrait imaginer qu'ils peuvent coexister. Et en fait, ils coexistent dans cette chose, cette surface plane, colorée, qu'est une peinture.
Alors, dans votre approche des œuvres, dans votre analyse des œuvres, vous avez fait un choix qui est équidistant de deux tentations assez négatives, selon moi, de l'analyse de tableau. D'abord, toute une tendance, disons, dans les années 70, assez jargonnante, assez ésotérique, où, à vrai dire, les analyses sur la peinture larguaient un peu le lecteur. Et puis, d'autre part, à l'autre opposé, l'anecdotique, c'est-à-dire la biographie, l'œuvre expliquée par l'homme, etc. Bon, sans que vous l'excluiez totalement, parce que parfois c'est un élément important. Donc vous avez choisi cette voie très, très différente et très variée aussi, parce que chaque tableau dicte une approche différente. Mais néanmoins, vous vous tenez un peu équidistant d'une théorie très, très dogmatique et d'autre part d'une vulgarisation. Les grands hommes font l'histoire ou les grands hommes font l'étoile.
Oui, au départ, le projet un peu rigide que j'avais écrit, c'était vraiment en réaction, pas contre quelque chose de précis, mais en réaction contre une impression générale née dans ces séances sinistres de projection de films qu'on avait quand j'étais petit, le jeudi après-midi, parce que c'était le jeudi, le jour de sortie, dans des espèces de ciné-clubs d'école communale, où on nous projetait des films documentaires sur l'art d'un ennui absolument mortel. Et en noir et blanc, évidemment, et des vieux films rayés qui avaient dû tourner dans toutes les écoles de France. Donc, si vous voulez, je me disais, mais c'est pas possible de raconter ces choses qui sont tellement belles, que je vais voir au Louvre, et qui ont de la couleur en plus, bon, mais qui ont une espèce de sensualité, de volupté extraordinaire, de nous montrer ces trucs en nous racontant le romantisme, l'impressionnisme, le classicisme, ou alors, au contraire, la vie passionnée des peintres. Et l'idée que j'ai eue, donc, c'était prendre un tableau, et un tableau uniquement, bon, ça n'a pas toujours été respecté, parce qu'il y a certains tableaux qui appartiennent à des séries ou qui sont des doublons, enfin qui sont des répliques, etc. Prendre un tableau et tout dire autour de ce tableau. C'est-à-dire, c'était vraiment une approche matérialiste, phénoménologique, je ne sais pas comment on pourrait dire exactement, mais c'est-à-dire le prendre. Et quand je dis le prendre, c'est le prendre vraiment. C'est-à-dire qu'on est allé dans les musées, bon, évidemment, on met des gants, et puis il y a des gens, des assistants et des conservateurs qui sont là. On prend le tableau, on le décadre, on enlève le verre s'il est sous un sous-verre, on regarde ce qu'il y a derrière. Donc on approche l'objet vraiment d'une façon concrète, et on va s'acharner pendant cette demi-heure de film à ne parler que de ce tableau, pourquoi il a été fait, comment il a été fait, pourquoi il est comme ci, comme ça, quelle couleur, qu'a voulu dire le peintre, d'où viennent ces images, pourquoi est-ce qu'on peint de telle ou telle façon, est-ce que ça appartient à une série d'images généalogiques qui s'engendrent comme ça les unes les autres, est-ce qu'il a eu une postérité, enfin, se poser toutes les questions qu'on peut avoir à se poser autour de cet objet tableau qui est là devant nous et qu'on désacralise un peu en le décrochant et en le retournant, en regardant ce qu'il y a derrière, en montrant le grain de la toile, en gratouillant en quelque sorte la couche picturale.
Mais ça peut, en même temps, ce que je disais, c'est que chaque tableau dicte une approche très différente. C'est pour ça que c'est pas du tout lassant de regarder vos films, parce qu'il y a une très grande diversité. Par exemple, la flagellation de Piero della Francesca, c'est considérablement consacré au problème de perspective, au problème d'espace, etc. Enfin, c'est vraiment un traité pratiquement comme il y en avait beaucoup d'ailleurs à la Renaissance, traité sur la géométrie, etc. Et puis par contre, si on prend le radeau de la Méduse, évidemment là c'est un tableau où l'histoire compte, le contexte, c'est un vrai naufrage qui a eu lieu. D'ailleurs, vous avez préfacé le journal de, enfin, les commentaires d'Alex Coréard et Jean-Baptiste Savigny qui ont raconté cette histoire de la Méduse qui est parue également chez Folio.
Oui, on ne trouvait plus du tout le texte, donc je propose à Gallimard de le rééditer.
Le naufrage de la Méduse. Donc, prenons ces deux exemples-là, on a affaire vraiment à un grand écart et du point de vue de l'approche est très très différente, même si vous parlez aussi bien sûr de la toile de Géricault, de sa technique picturale et de celle de Piero della Francesca. À ce sujet, d'ailleurs, je voulais vous poser une question parce que j'ai remarqué que la flagellation dure une heure, ce qui est inhabituel.
Pas une heure, il dure 40 et quelques minutes.
Enfin, il est plus long que les autres.
Oui, il est beaucoup plus long que les autres. Oui, malheureusement, on n'a pas réussi à le faire entrer dans son... Non, ce que vous dites est exact. Je pensais au départ que je ferais 4-5 films, et que ça serait tellement répétitif qu'on se lasserait assez rapidement. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque tableau me provoquait une approche différente. Certains tableaux sont plus intéressants par le traitement de la couleur, d'autres sont plus intéressants par l'anecdote ou par l'impact politique qu'ils ont pu avoir, etc., etc. Donc c'est vrai que, par exemple, mais là vous prenez deux exemples qui, en fait, se ressemblent beaucoup, parce que ce sont deux tableaux politiques. Alors on ne sait pas très bien ce que veut dire la flagellation, mais il semble bien que ce soit un message adressé au duc de Montfeltre soit pour une nouvelle croisade, soit... Enfin, on ne sait pas très bien, mais on sait qu'il y a un message politique là-dessous. Et puis, le radeau de la Méduse est un fait divers éminemment politique. Ce qui est intéressant dans la flagellation, c'est que c'est un tableau complètement dément. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire de la peinture. Parce que si on commence à regarder ce tableau, qui représente un paysage qui n'existe absolument pas, on a l'impression que ça existe, mais en Italie, par exemple, il n'y a aucune... Je dis toujours, la rue... En perspective idéale de la Renaissance, c'est la rue de Rivoli. Il n'y a aucune rue, aucun objet comme ça en Italie. Il y a des fragments de ce qu'on imagine toujours à Ferrare ou à Florence. Il y a des fragments de perspectives comme ça. Mais il y a très peu d'endroits où on peut voir des perspectives aussi.
Mais ils ont peint aussi des cités imaginaires.
Voilà, donc on est dans une cité imaginaire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si on commence à regarder le détail de cette cité, on s'aperçoit qu'on est obligé de réinventer le bâtiment du fond. Il y a une amorce d'architecture qui donne une suite logique au bâtiment. On est obligé d'inventer la partie droite, le jardin du fond. Et si bien qu'à partir de cet objet qui est complètement imaginaire, on a un espace réel qui peut être reconstitué en maquette, qui est très précisément, puisque tout est extrêmement bien compté, si bien qu'on on a ce corollaire, c'est que Piero a dû fabriquer une maquette en bois, en carton, je ne sais pas, pour faire son tableau. Et donc, si vous voulez, on arrive à raisonner à l'envers comme ça. Dans le cas de Géricault, on a une situation complètement inverse au point de vue espace, au point de vue topologique, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce d'espace mouvant. Quand on regarde le tableau au Louvre et qu'on reste devant pendant 10 minutes, un quart d'heure, on finit par avoir le mal de mer parce qu'on est dans une espèce de surexion comme ça vers le haut. Tous ces gens sont là dressés dans leur appel au secours et ils sont sur le dos d'une vague énorme qui les porte. Et donc, c'est un espace qui est assez peu défini, impossible évidemment à vivre physiquement par le peintre, et donc complètement réinventé en studio. Peut-être qu'il avait mis des planches penchées, qu'il a fait poser tous ses amis, dont Delacroix, d'ailleurs le jeune Delacroix, qui est le corps qui est au premier plan. Mais
Qui reprend d'ailleurs des positions des corps de Géricault dans La liberté guidant le peuple, que vous avez analysé aussi.
Citation, oui, tout à fait. Mais c'est très curieux parce que c'est intéressant justement ces citations aussi. Géricault cite des marbres anciens, des modèles d'atelier. Delacroix va reprendre les morts, les positions des morts, etc., dans sa Liberté guidant le pape. Mais ça continue, hein, je veux dire, Picasso copie Delacroix, Otto Dix copie aussi à la fois Delacroix et Géricault dans son grand triptyque La guerre, et ainsi de suite. Il y a une espèce de transmission de peintre en peintre, de thèmes, de motifs, de positions, de gestes, etc. Et c'est très intéressant à suivre dans l'histoire de la peinture, ça c'est...
Alors, à propos d'ailleurs de ce tableau de Géricault, le naufrage de la Méduse, ce qui est tout de même étonnant, c'est que vous avez été longtemps marin, vous avez passé 2 ans, plus que ça, mais enfin votre service militaire, mais aussi par ailleurs une expérience de marin, donc beaucoup d'années, mais ça ne se retrouve pas dans vos choix d'étoiles, parce que finalement, moi je m'attendais, à part le radeau de la Méduse, je m'attendais à une analyse de Turner, de Winslow Homer, des paysagistes hollandais, de Salvatore Rosa, enfin des tempêtes, et vous n'avez pas mis votre expérience de vie
un petit peu dans le Claude Lorrain, dans le port au soleil couchant.
Non, j'aurais mais bien votre roman est consacré à un marin qui fait escale à Valparaiso pendant 24 heures.
Si, j'aurais bien aimé faire un Vernet. Mais si vous voulez, la série s'est arrêtée un peu avant. Moi, j'avais encore...
Lequel Horace
Joseph. Bon, ce que je voulais faire, par exemple, on va parler des films que je n'ai pas fait. Voilà. Je voulais faire. Vous savez que Vernet a eu une commande par Louis XV de peindre tous les ports de France. Bon, ce magnifique série qu'on peut voir aujourd'hui au Musée de la Marine, et il y en a quelques-uns aussi au Louvre. Et donc, il a fait plusieurs de ces ports avec une technique donc qu'on connaît bien, de champ contre champ. Il a fait Toulon, par exemple, qu'il a divisé en plusieurs parties. Mais Marseille, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait vraiment un vrai champ contre champ. C'est-à-dire qu'il a fait un tableau du port de Marseille vu du quai des Belges, et puis un autre tableau, même format, même jour, même lumière, etc., vu du Fort Saint-Nicolas. Et donc, on a... C'est drôle comme démarche, hein. Ça annonce des tas de réflexions, parce que c'est vraiment rigoureusement dans l'axe, donc il refait la même chose, et il se montre lui-même en train de dessiner. Je voulais... Et puis Marseille, c'est Marseille, quoi. Il y a les moulins encore en ville, au bord du... il y a le vieux port, enfin il y a tout ça, et je pensais que ça pouvait faire un film tout à fait magnifique aussi. Bon, malheureusement, tous les projets de films ne sont pas... Je n'ai pas fait les Ménines non plus, que j'aurais bien aimé...
Oui, alors justement, ce qui est aussi très tout même intéressant, c'est ce que vous avez choisi. C'est une chaîne franco-allemande. Alors c'est Arte, qui diffuse au film. Alors, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que finalement, il n'y a pas d'Allemands. Enfin, à part Grunewald, c'est très étonnant. Il y a 26 Français. Et j'ai fait le décompte, et il n'y a pas d'Allemand, il n'y a ni Dürer, ni Holbein, ni les Flamands, Bosch, Bruegel, aucun Allemand contemporain, les Kirchner, enfin contemporain du XXe siècle, les Beckmann, les Otto Dix, les Kirchner, etc., enfin Nolde, toute la grande école expressionniste ou de la nouvelle objectivité. J'ai trouvé ça très très surprenant, parce que c'est tout même, alors ne parlons pas de Velázquez, qui est tout même le peintre des peintres, comme on dit.
Mais Velázquez, je me le gardais, comme on dit, à Marseille.
Comment ça s'explique, ça? Parce que Italiens sont bien représentés. Oui. Bon, les Français, alors, surreprésentés, d'une certaine
façon. Vous avez découvert le secret d'Alain Jaubert, c'est-à-dire que je préfère descendre vers l'Italie que monter vers les brumes nordiques. Mais bon...
Mais les Français, 26, c'est tout même un peu chauvin. Là.
Non, mais en fait, si vous voulez, bon, on ne fait pas ce qu'on veut quand on fait des films. Donc, on est un peu tributaire de ses producteurs. J'apprendrai ça à personne. Et donc, si vous voulez, les trois grands musées qui ont participé au financement, ainsi que la Réunion des musées nationaux, imposaient que je fasse plutôt des objets du patrimoine. Alors, j'ai réussi à en sortir, puisque j'ai fait Marcel Duchamp avec le musée de Philadelphie, mais coproduit par le Centre Pompidou. J'ai fait les deux Goya du musée de Lille, produits par la Réunion des musées nationaux. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, si vous voulez, en plus, j'ai fait les autoportraits de Rembrandt. je n'avais plus pour Dürer que son autoportrait magnifique. Bon, j'aurais pu le faire, évidemment, c'est pas... mais j'aurais préféré faire autre chose. Ça ne s'est pas présenté comme ça. Holbein, j'avais envie de faire les ambassadeurs aussi. Bon, ça a été très compliqué. C'est très compliqué de monter des coproductions, ou pas de coproduction du tout, simplement d'avoir les autorisations, avec des musées étrangers. Donc, si vous voulez, ça, à mesure que la série se déroulait, j'allais au plus facile, évidemment. Donc, j'ai fait effectivement tout le 19e siècle français, sauf Degas. Bon, on s'est arrêté en cours de route. J'ai fait beaucoup de choses et effectivement, je n'ai pas fait. Il y a des lacunes, quoi. Il y a des lacunes. Il y a même des lacunes chez les Italiens.
C'est bien, parce que ça, vous allez en faire 50 autres. Espérons.
Bah écoutez, ça, il faut le dire à Arte et puis au...
Mais, par exemple, moi, je suis très frustré parce que j'aime beaucoup la peinture surréaliste. J'attendais Miro, Max Ernst, Masson, Tanguy, Dali, et j'ai malheureusement que Andy Warhol. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas de Andy Warhol, c'est que votre technique de l'analyse qui marche extraordinairement pour tous les tableaux, quand vous êtes devant les sérigraphies d'Elizabeth Taylor, il n'y a pas de quoi nourrir une demi-heure. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on a tout compris. Et donc, vous faites un film, en fait, sur Andy Warhol et pas sur le...
Ah non, non, parce que
pas vraiment,
là, je ne suis pas d'accord. le tableau d'Andy Warhol, si on l'analyse bien, il a quand même des implications sur le... Bah, d'abord, c'est vraiment quelque chose d'assez autobiographique, dans la mesure où... Andy Warhol et Elizabeth Taylor sont devenus amis, ils se sont rencontrés, ils ont tourné ensemble dans un film insensé d'ailleurs. Et il y a quand même de quoi nourrir la partie anecdotique ou biographique.
Enfin, et puis, par ailleurs, c'est quand même... Devant les Ménines, il y a plus de travail pour le spectateur, même que devant les sérigraphies de Elizabeth Taylor.
C'est pas pareil. Les Ménines, si vous voulez...
Ménines,
c'est un tableau très simple.
L'adoration des mages, ou peu importe.
Ménines, c'est un tableau... extrêmement simple,
comme une série,
mais qui a été complètement noyé dans une littérature cosmique. Là, il y a vraiment des milliers d'articles, des dizaines de bouquins, des analyses par-ci par-là, enfin, etc. Bon. Et donc, si vous voulez, les Ménines, c'est un peu comme la Joconde, c'est noyé sous une masse, sous les bibliothèques. Si on prend le tableau des Ménines et qu'on le reconstitue simplement comme ça, on voit très bien, il y a une fable métaphysique derrière les Ménines, mais c'est pas, il est plus compliqué par son archéologie de texte que par sa propre. Non, je pense par exemple les Fileuses, c'est un tableau de Velázquez, c'est plus complexe que les Ménines. Il y a des tableaux qui sont submergés par la littérature. Hein, je veux dire, ça arrive souvent.
Hein, alors, je sais que vous étiez proche de Michel Foucault. D'ailleurs, il était venu à votre secours lorsque vous aviez été mis en prison.
Ouais.
Vous avez été mis en prison parce que vous aviez essayé
sauver... C'est une histoire tellement ancienne.
De sauver un manifestant qui avait été tabassé. Vous avez été venu au secours de ce manifestant en 70, je crois, 71.
Ouais, c'est ça, 71.
Ouais. Voilà, et il y a eu une pétition où les intellectuels, ouais, à juste titre, vous ont défendu pour vous sortir de prison. Mais est-ce que l'étude des Ménines par Foucault dans Les mots et les choses, enfin, qui est un texte magnifique, oui, vous a aussi éveillé à l'analyse des tableaux?
Non, je m'intéressais à la peinture bien avant. D'ailleurs, j'en ai parlé souvent avec Michel Foucault. Mais c'est vrai que cette analyse qu'il fait est absolument magnifique. Parce que, alors qu'il se trompe quand même un peu, je crois qu'il y a une toute petite erreur dans son analyse qui est le fait que ce qu'on voit dans le miroir, en fait, si vous voulez, dans les Ménines, on va élucider un tout petit peu les Ménines. C'est pas ce que le miroir, enfin, le miroir ne reflète pas ce qu'il y a en face de lui, c'est-à-dire le roi et la reine, mais ce qu'il y a exactement sur la toile, c'est-à-dire le portrait du roi et de la reine. Bon, à part cette toute petite erreur, je pense que l'analyse de Foucault est formidable. Et le texte, effectivement, est très très brillant parce que, un peu comme l'ont fait certains textes, Sétis pour l'analyse de la tempête, Gainsbourg pour l'analyse de la flagellation et d'autres tableaux de Piero da Francesca. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'analyse historique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, justement, vous parliez d'inconscient tout à l'heure, il faut essayer de trouver, de comprendre comment le discours du tableau s'inscrit dans la culture de son époque et aussi pourquoi il continue à parler aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de tableaux qui nous sont complètement incompréhensibles. Les Ménines, c'est pas incompréhensible, c'est énigmatique, ça énerve l'esprit, c'est titillant, etc. Mais ça n'est pas... Velázquez a fait un jeu, une sorte de jeu, mais il n'a pas posé un rébus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que ce tableau reflète, et ça, c'est donc l'analyse de Foucault, quant au passage de l'âge classique et à la, enfin, à la réflexion que peuvent avoir justement les lettrés à l'époque, et nous, comment on peut lire cette chose aujourd'hui. Et donc, il y a des tableaux comme ça qui sont des embrayeurs de réflexion. D'ailleurs, Foucault a consacré aussi une autre analyse au bar aux Folies Bergères de Manet, qui est un tableau d'une certaine futilité, enfin bon, c'est un... mais qui vous introduit exactement, d'ailleurs, comme les Mélines, à cette réflexion sur le reflet, sur la place du spectateur, sur le personnage du peintre lui-même. Et un peu, c'est une question qui est vraiment cinématographique aussi. Donc c'est très intéressant. Certains tableaux ont ce rôle-là. Il y a des tableaux qui restent purement des instants historiques, puis d'autres qui continuent à fonctionner et à faire fantasmer les gens, les penseurs, pendant des siècles et des siècles. C'est le cas de quelques tableaux assez rares, comme ça, qui se posent comme des jalons dans l'histoire de la pensée humaine.
Mais alors, il y a un travail prodigieux de documentation, enfin, qui est totalement assimilé. Mais par exemple, pour la flagellation, il suffit de regarder les génériques à la fin de chaque film pour voir, vous avez consulté vraiment tout. Lightbound, Gombrich, Kenneth Lark, Carlo Ginzburg, vous citiez, etc. C'est-à-dire tous les gens qui ont pu écrire, vous avez une documentation écrite considérable que vous utilisez évidemment pour votre commentaire. Mais en même temps, j'ai lu dans un entretien que vous donnez, c'est qu'en même temps, vous dites que ça, c'est beaucoup moins important que plutôt le côté hitchcockien de votre démarche. C'est-à-dire que c'est une sorte d'enquête. Et d'ailleurs, l'enquête est un très bon moyen pour tenir l'attention du spectateur. C'est une forme d'enquête à la Sherlock Holmes.
Je suis très méfiant. Il y a des livres entiers, par exemple, qui ont été écrits sur la flagellation, sur d'autres tableaux. Et souvent, il y a de pures conneries, n'ayons pas peur des mots. Des gens reprennent des éléments, des dimensions, des couleurs, des objets, etc., qui ne figurent pas dans les qui sont fausses, quoi. Donc il faut repartir à la base, mais complètement. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je suis allé photographier un tableau, j'avais de quoi le mesurer, et je prenais des notes et je regardais attentivement la tranche, les clous, enfin tout, parce que quelquefois, vous savez, c'est un peu comme en science, les gens reprennent les informations qui sont déjà dans d'autres articles, et donc ils reprennent quelquefois des erreurs typographiques ou des bêtises. Donc déjà, cette enquête-là, je la fais moi-même. Ensuite, je suis allé voir évidemment les conservateurs et j'ai discuté avec ceux qui avaient fait des enquêtes. Et puis quelquefois, ça a été le cas par exemple pour le concert champêtre de Titien, enfin Giorgione Titien, qui avait été radiographié dans les années 30 ou 40 et qui n'avait jamais été revu depuis. Donc on l'a fait venir au laboratoire, on l'a décadré et on a regardé un certain nombre de choses en réflectographie infrarouge pour voir les positions des mains de la femme. C'est très important aussi, ça. Alors donc, quelquefois, j'ai un peu suscité des petites recherches. Enfin, ça a été toujours très modeste, évidemment. Mais on a essayé de regarder, de voir des choses. On l'a fait sur les Sabines de David aussi, qui mériterait d'être passé. Effectivement, c'est un tableau trop grand pour être déplacé, mais qui mériterait d'être analysé de fond en comble, parce qu'il y a énormément de petits repentirs qui sont très intéressants. Il y en a un gros qui est très connu, c'est que ce tableau, au départ, montrait les messieurs complètement tout nus et bijoux de famille bien en évidence, et que ça choquait les gens et les jeunes filles. Et donc David a peint, comme il avait fait pour Léonidas d'ailleurs, il a repeint le fourreau du glaive de Tassius passant juste devant son sexe. Et donc on voit, si on emploie les outils adéquats, on peut voir le zizi à travers le fourreau. Mais disons que... Il y a d'autres repentirs dans le tableau qui sont très intéressants. Et donc, à plusieurs reprises, on a pu prendre les tableaux, les regarder, les voir, et puis les analyser de façon à ce que ça nourrisse en quelque sorte la matière du film. Enfin, ça s'est fait sur 3 ou 4 cas, mais pas plus. Quoi.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le choix de la voix, parce que c'est des films où le commentaire est très important. Et donc, vous avez demandé à Marcel Cuvelier, un acteur de Ionesco et de Tchekhov, qui avait joué au cinéma d'ailleurs chez René, on le voit dans La guerre est finie, dans Stavisky, chez Costa-Gavras, chez Louis Malle, c'est un acteur connu. Et comment êtes-vous amené au choix de cette voix-là, avec ce ton très particulier qui évite évidemment le côté déclamatoire qu'il y a dans beaucoup de films sur l'art avant les vôtres?
Alors, c'était ma principale crainte, parce que je me sentais assez fort pour maîtriser l'image, le montage, la musique, etc. Mais je me disais, ce qui est vraiment mortel au cinéma, c'est le commentaire. Et partout, toujours. même aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les chaînes culturelles et entendre les documentaires, les séries de... Bon, je ne citerai pas de nom, mais bon, c'est terrible. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, je ne le maîtrise pas dans toutes les versions étrangères. Évidemment, il y a les versions italiennes, anglaises, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas... Mais là, je voulais absolument que... Et Thierry Garrel qui avait... m'a dit, bah, t'as qu'à essayer, on a fait un enregistrement avec Marcel Cuvelier, je le connaissais à peine, je me souviens qu'il était le mari de Folcoche dans une version télévisée de Vipère au Point, mais il y a longtemps, du temps de... Et donc je l'ai rencontré, et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà ce que je voudrais, c'est je voudrais une voix vraiment blanche, que vous abandonniez tout effet de théâtre, etc. Et finalement, il s'en est formidablement bien tiré. Il a eu des aventures dans sa voix parce qu'il a eu un infarctus, tout ça. Enfin bon, ça monte, ça descend. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais il a gardé toujours cette espèce de rigueur. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de mettre une petite ponctuation, une petite touche d'humour, etc. Mais on est resté tout le temps très effacé, quoi. D'une certaine façon, s'effacer. Et puis en même temps, il faut être pris dans la voix. Mais ça, les voix, c'est quelque chose de... C'est très difficile à analyser. Enfin, j'en avais parlé longuement parce que j'avais fait une émission sur la voix, une soirée thématique sur la voix à Arte avec Michel Bouquet qui m'avait raconté comment une voix, ça se cajole, ça se dorlote, ça s'entretient, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un peu comme le visage, comme les yeux, etc. Ça fait partie de la personnalité des gens et c'est impossible de la modifier vraiment, quoi. Sauf les imitateurs, évidemment. Et le choix, je pense que le choix a été bien. Enfin, j'ai eu très, très, très peu de réactions négatives à la voix de mon commentateur. Et une ou deux fois seulement. La plupart du temps, les gens pensent que c'est moi qui parle, quoi, qui raconte l'histoire. Quoi.
Vous avez aussi fait des découvertes en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une explication d'un tableau, une analyse, mais aussi une contribution aussi à l'histoire de l'art. Avec, par exemple, la chambre à art de Van Gogh ou la grande jade de Seurat, vous avez fait des découvertes par rapport au tableau lui-même.
Oui, la Grande Jade de Seurat, malheureusement, on ne peut pas revenir sur le terrain puisque la pointe de l'île a été entièrement rehaussée de plusieurs mètres. On y a construit d'immenses HLM de luxe, en fait, etc., etc. Et c'est impossible de retrouver le site précis. Par contre, j'ai retrouvé l'atelier de Seurat. Ça, c'était très, très intéressant parce que c'est un tout petit atelier, minuscule, et qui montre bien qu'il ne pouvait pas faire des tableaux plus grands que 3 mètres, qui sont les dimensions, enfin, l'écartement entre les deux poutres qui soutiennent la petite mezzanine qui est au-dessus de la chambre. Et puis, Van Gogh, oui, je le savais, enfin je m'en doutais, mais je voulais absolument apporter la preuve que la chambre qu'il peint n'est pas la chambre d'un fou, puisqu'on voit des lignes de fuite qui sont complètement délirantes, le lit qui est contre la porte, qui n'est pas poussé au fond, etc. On ne comprend pas la structure de cette chambre si on pense que c'est une chambre rectangulaire. Or, il ne fait rien pour nous arranger la chose. Il est, comme la plupart des peintres, assez pervers, comme Renoir, comme Monet, comme d'autres, c'est-à-dire ou comme Bonnard, surtout. Il joue beaucoup avec les artefacts de la vision. Et donc, sachant que l'image est à plat, il nous donne à voir quelque chose qui ne nous paraît pas du tout cohérent et qui est en fait très cohérent, puisque en retrouvant les plans de la chambre de Van Gogh au cadastre d'Arles, on voit qu'il habitait une maison qui était elle-même biscornue, biscornue par le haut, biscornue horizontalement, c'est-à-dire qu'en fait, ses façades faisaient un angle de 120 degrés, donc les chambres de l'autre côté faisaient seulement avaient un angle de 60 degrés. Et donc, il peint la chambre telle qu'il la voit. Et si on refait la perspective, on s'aperçoit qu'elle est entièrement cohérente, quoi. Et de la même façon, d'ailleurs, le plafond était en pente aussi.
Vous dites aussi qu'il y a certaines œuvres qui gardent vraiment leur mystère, qui sont de vraies énigmes. Vous disiez que les Ménines n'étaient pas une énigme, mais par exemple, une tapisserie comme la Dame à la licorne, ou bien la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck. C'est des films qui sont des rébus pour
C'est-à-dire vous. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez... Bon, on sait que Van Eyck était quelqu'un d'extraordinairement érudit, cultivé, intelligent. Alors, quand on commence à analyser son tableau, je parle de celui-là qui est un tout petit tableau par rapport à l'agneau mystique qui est gigantesque, on découvre tellement, 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 tellement de symboles qu'on se demande où on peut s'arrêter. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de, c'est une œuvre ouverte, en quelque sorte. Et donc, il est certain qu'il y a introduit énormément de symboles. Bon, l'intérieur, l'extérieur. À l'extérieur est un paysage composite qui est fabriqué à partir d'éléments architecturaux empruntés à plusieurs villes de la Bourgogne, de la Flandre, etc. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce qu'il y a vraiment autant de symboles qu'on a voulu le voir? Il y a tellement, tellement de choses dans ce tableau. C'est un macrocosme. Il y a effectivement aussi au centre du tableau ce pont qui ressemble beaucoup au pont de Montereau, donc qui pourrait évoquer le meurtre de Jean Sans Peur, etc. Bon, c'est extraordinairement compliqué de savoir quelles sont les limites, si vous voulez, de l'analyse. La Dame à l'Alicante, c'est pareil, c'est fabriqué d'éléments de blason, d'éléments de symbolique, de néoplatonisme, de religion chrétienne, etc. Il y a un moment, j'ai eu la veine au moment où j'ai fait le film, que beaucoup, beaucoup d'enquêtes sur les tapisseries mille fleurs et sur la Dame à l'Alicante venaient de se faire. Donc j'ai pu condenser tout ça. Donc ça donne effectivement une illusion, disons, de cohérence. Mais on le dit souvent, d'ailleurs, avec les responsables du musée de Cluny, il faut qu'un jour ou l'autre, on fasse un grand colloque sur la Dame à la Licorne pour essayer de la comprendre et de l'élucider. Ce qui est intéressant avec la Dame à la Licorne, c'est qu'on s'aperçoit, et on l'a vu au cours d'expositions récentes à Paris, qu'il y a là la trace d'un immense artiste, mais vraiment un Picasso de l'époque, qui a fait des gravures, qui a fait des livres d'heures, des enluminures, les vitraux de la Sainte-Chapelle et ceux de l'hôtel de Cluny, et énormément de cartons de tapisserie. C'est sans doute le même qui a fait les cartons des tapisseries des cloîtres, enfin de la chasse à la licorne à New York, d'un Percé, d'une collection privée, du Hercule aussi. Enfin, et donc c'est un personnage absolument gigantesque qui, pour l'instant, quasiment anonyme, mais dont on a pu, justement, grâce à des enquêtes partielles ou plus complexes, retrouver la trace. Quoi.
Alors, j'aurais terminé, puisque j'ai commencé par...
La main, plutôt. Voilà, on dirait la main de l'artiste.
Alors, j'aurais terminé, j'ai commencé par André Bazin, terminé par une citation aussi d'André Bazin. Je veux savoir ce que vous en pensez. D'abord, c'est quelqu'un qui défendait le film sur l'art à une époque où les historiens étaient... dressé contre ce principe même. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, 60 ans après, puisque vos films ne sont pas contestés par les critiques d'art et les historiens d'art. Il disait « Le cinéma ne vient pas servir ou trahir la peinture, mais lui ajouter une manière d'être. Le film de peinture est une symbiose esthétique entre l'écran et le tableau, comme le lichen entre l'algue et le champignon. » Alors, comme vous êtes à la fois botaniste et marin, est-ce que pour vous, c'est comme le lichen entre l'algue et le champignon ?
Oui, je pense que, si vous voulez, bon, il faut rester... Quand Bazin écrit, il n'y a pas encore cette espèce de noria de la télévision qui digère, qui avale, qui rediffuse tous les films, etc. Il faut pas oublier, d'ailleurs je ferai une parenthèse là, le rôle extraordinaire qu'a joué Madeleine Ours quand elle a fait ses émissions à la télévision, Les secrets des chefs-d'œuvre, où elle a... un peu désacralisé cet aspect-là. Et puis elle a montré aux historiens d'art justement qu'on pouvait, moi je pense que tout le monde est d'accord là-dessus maintenant, mais à l'époque c'était pas évident, qu'on pouvait montrer ses secrets d'analyse à un très grand public. Et effectivement, bon, je pense que quand on fait des films sur des objets d'art ou sur des tableaux, il faut rester extrêmement modeste, quoi. Il faut pas se prendre... soi-même pour une espèce de Fellini du film d'art. Il faut rester au plus près de l'objet, c'est ce que j'ai essayé de faire, toujours se poser la question de la responsabilité morale, disons. Le zoom, le travelling est une question de morale. Bon, eh bien, quand on fait un gros plan dans un tableau, c'est pas innocent. C'est-à-dire qu'on fait dire à un détail autre chose que ce qu'il est censé devoir dire. Il faut que la logique même des mouvements de caméra, de la narration, du récit, etc., ce soit à la fois humble et efficace, quoi. C'est donc un peu, si vous voulez, la démarche que j'ai essayé d'adopter.
Merci beaucoup, Alain Jaubert. Alors, je rappelle que chez Éditions Montparnasse et Arte, On trouve un coffret magnifique, donc avec 18 DVD de tout votre travail sur les tableaux. Également votre roman, donc Val Paradis chez Gallimard. Les textes de Palette, enfin d'une vingtaine de Palette, également chez Gallimard. Apparaître également chez Gallimard un folio Lumière de l'image avec d'autres analyses. Donc c'était Projection Privée, une émission de Michel Simon à la réalisation Laurent Polleret. Vous pouvez retrouver cette émission pendant une semaine sur le site franceculture.com. Et dans quelques instants, ce sera Mauvais genre de François Angelier.